bien entendu ? Contre l'Allemagne !
Bonjour, bienvenue dans le fil de l'histoire. Aujourd'hui, deuxième épisode de notre série « Loin de Verdun ». En quoi la guerre de 14-18 fut-elle mondiale ? Question que nous nous posons avec l'historien Michael Bourlet. Dans l'épisode précédent, nous avons vu comment la guerre, suite à l'attentat de Sarajevo, s'est déclenchée en août 1914, d'abord en Europe, puis au fil des années, s'est propagée dans le monde. C'est la Russie, alliée de la Serbie, de la France et du Royaume-Uni, qui la première entre dans la guerre. Une guerre qui va l'opposer à trois empires, l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et bientôt l'Empire ottoman. Le 30 juillet 1914, le tsar décrète la mobilisation générale et du même coup enclenche le mécanisme des alliances. Ce que nous, Français, appelons le front de l'Est, qui est plutôt à l'ouest pour les Russes, s'étire sur pas moins de 2000 km du nord au sud. Dès le début août, l'armée russe, emmenée par le tsar Nicolas II, lance une grande offensive, au sud-ouest, sur l'Autriche-Hongrie, et au nord-ouest, sur la Prusse orientale. Depuis plusieurs années, une forte rivalité oppose la Russie et l'Allemagne de Guillaume II. Le géant russe, aux ressources humaines inépuisables et au développement économique récent, effraie les Allemands, surtout depuis l'alliance franco-russe de 1892, qui enserre l'Empire allemand dans un étau. L'offensive russe, forte de 500 000 soldats, est si rapide et si spectaculaire que le 14 août, elle atteint la Prusse orientale, menaçant la ville de Königsberg à la grande frayeur des Allemands. La nouvelle, en revanche, on s'en doute, soulève l'enthousiasme en France. Les Cosaques seront bientôt à Berlin, lit-on dans le journal. Analyse un peu rapide. En réalité, l'offensive russe est arrêtée net à la bataille de Tannenberg. Les Allemands, qui ont découvert les plans ennemis en interceptant des messages radio non codés, ont pu encercler les troupes russes et les anéantir. Pour les Allemands, la victoire inespérée et quasi miraculeuse de Tannenberg, menée par son héros Paul von Hindenburg, a sauvé la nation de l'invasion des Slaves barbares. Pour les Russes, en revanche, avec 50 000 morts et plus de 100 000 prisonniers, cette défaite, une des plus lourdes de l'histoire de l'armée du tsar, est si humiliante que le général Alexandre Samsonov, qui commande la 2e armée russe, déclare, désespéré à ses officiers, « Le tsar m'a fait confiance, comment puis-je lui faire face après un tel désastre ?» avant de se tirer un coup de revolver dans la tête. Après la défaite de Tannenberg, ce qui reste de combattants russes doit battre en retraite. Mais les Français s'interrogent alors. Où est donc le fameux rouleau compresseur russe et ses terribles Cosaques qui, espéraient-ils, devaient atteindre Berlin en quelques semaines et ainsi mettre fin à la guerre.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
À la fin de l'année 1914, la guerre de mouvement sur le front de l'Est se transforme en guerre de position, comme sur le front de l'Ouest. Une guerre d'usure qui, avec ses millions de morts, de blessés et de prisonniers, va vite miner l'élan patriotique des Russes. À l'été 1915, l'armée du tsar subira l'assaut conjoint des Allemands et des Austro-Hongrois et devra se retirer dans ce qu'on appelle la grande retraite. Mal préparée à un conflit de longue durée, l'armée russe manque vite cruellement de tout, de munitions, de ravitaillement et d'un commandement digne de ce nom. Les officiers supérieurs sont pour la plupart des aristocrates choisis pour leur rang plus que pour leurs compétences militaires et qui n'ont que faire de la vie de leurs soldats, des moujiks mal préparés, mal équipés, mal nourris, vêtus de loques et parfois sans fusil. Des hommes se mutilent pour ne pas monter au front, d'autres par milliers désertent. Tandis qu'à l'arrière, dans toutes les couches sociales, les civils, victimes de pénuries et redoutant une invasion allemande, n'en peuvent plus de cette guerre. Sur le front et à l'arrière, le pessimisme s'est emparé de la Russie.
Écoutez les gars, les Allemands sont à moins de 25 km. Non, ce n'est pas une blague. Ils avancent. Ils avancent à toute vitesse. Vous les avez laissés passer. Viennent pour prendre vos femmes, vos maisons,
c'est pas vrai.
Votre patrie.
Ta patrie, officier.
Oui, ma patrie. Et je suis fier de...
Comment se fait-il que l'armée du tsar, qui s'était engagée la première dans la guerre avec de grandes offensives victorieuses, se retrouve dès 1915 dans l'incapacité de poursuivre le combat? La Russie était-elle prête pour cette guerre?
La Russie, l'armée russe est en grande difficulté en 1915, mais je relativiserai un tout petit peu, puisque en 1914, quand même, elle impressionne, elle fait peur, elle a des hommes, et ça c'est important. Je dirais que l'échec russe à Tannenberg est surtout le fruit de mauvais choix, c'est-à-dire que les Russes misent, contrairement à ce qu'on a longtemps pu dire, sur une offensive contre l'Autriche-Hongrie pour pouvoir aller en regardant les Balkans, en fait, voilà, et ils délaissent un peu finalement la Prusse orientale, donc ils n'y mettent que deux armées, et lorsqu'ils se retrouvent confrontés à une armée allemande en Prusse orientale, c'est parce que les deux chefs ne s'entendent pas, donc il y a un mauvais commandement, qu'ils échouent. S'ils avaient mis le paquet, entre guillemets, en Prusse orientale, les Russes auraient probablement déboulé en Prusse orientale, voire à l'horizon à Berlin, et la guerre se serait terminée probablement plus tôt. Alors, il est vrai que ça représente une catastrophe pour l'armée russe, cette défaite de Tannenberg, mais sur les autres fronts, l'armée russe n'est pas défaite. Elle est plutôt, même, elle s'en sort plutôt bien, contre les Turcs, notamment, et contre les Austro-Hongrois. Alors, c'est vrai qu'elle connaît des grosses défaites au cours de l'année 1915, mais il n'empêche qu'elle a un allié, qui s'appelle la France, et qui va l'aider, qui va lui fournir du matériel, de l'argent, des instructeurs, pour permettre à cette armée russe, qui est en grande difficulté en 1915, de remonter un peu la pente et d'être sur les rangs pour la fameuse offensive de Brusilov de 1916. Voilà. On est en Galicie, donc aujourd'hui, on va dire, dans l'ouest de l'Ukraine, grosso modo, pour dire les choses simplement. C'est une offensive qui est un succès au début. L'armée austro-hongroise est sur le point d'être détruite, tout de même, et c'est une intervention de l'armée allemande qui permet de rétablir la situation et de transformer cette offensive, qui était une offensive qui marchait bien, en une bataille d'usure et d'attrition, et là où la Russie n'arrive pas à tenir la route. Et quelque part, en soi, l'offensive Brusilov, qui était initialement un succès sur le terrain, mais qui devient un échec, eh bien potentiellement, cette offensive, elle porte les fruits de la révolution quelques mois plus tard. Voilà, parce que les soldats sortent de là totalement éreintés.
Brusilov est devenu un héros, je crois, pour les soviétiques.
Oui, alors Brusilov, c'est un personnage intéressant parce qu'il est donc officier noble dans l'armée russe, et puis ensuite il va rejoindre les bolcheviks, voilà, et donc il va s'engager aussi pour l'Union soviétique. Il joue un rôle très important dans la guerre polono-russe des années 20, et puis ensuite il est critique à l'égard du régime, il est critique, donc il tombe un peu dans l'oubli, mais en revanche passe en offensive.
Oui, parce que la mémoire de la Grande Guerre, de la guerre, la Première Guerre mondiale en Russie n'est pas très importante.
N'a pas d'intérêt, c'est une guerre tsariste, une guerre d'impérialisme. Donc ça n'a aucun intérêt en fait pour les soviétiques. Par contre, Brusilov et son offensive, oui. Et d'ailleurs, dans les années à la fin de la Seconde Guerre mondiale, eh bien, on va réactualiser en Union soviétique Brusilov, et on va même essayer de montrer qu'il y a des liens entre ce qu'il avait imaginé en 1916 dans son offensive et toutes les offensives soviétiques de la Seconde Guerre mondiale. Ça, c'est intéressant. Donc c'est un personnage qui aujourd'hui en fait a retrouvé une position intéressante. C'est l'un des rares généraux et maréchaux russes qui est encore connu aujourd'hui en Russie en fait. Voilà.
Michael Bourlet, la situation tout de même en Russie va se dégrader au point qu'en 1917 les Russes vont sortir de la guerre. Il y aura le traité de Brest-Litovsk en mars 1918 par lequel l'Empire allemand se retrouve agrandi d'un immense territoire, et les Allemands, donc libérés à l'est aussi de la guerre, peuvent se concentrer sur le front de l'ouest. Quel rôle a joué le front de l'est dans l'issue de la guerre ? C'était quand même un sacré lâchage pour les franco-britanniques.
Au même moment, les Américains entrent en guerre aussi. Les Allemands retirent effectivement des divisions pour les emmener sur le front de l'ouest. Mais ça prend du temps, il faut transporter tous ces hommes, et puis je dirais que la situation n'est pas apaisée sur le front, l'ancien front russe, il y a toujours des tensions, il y a toujours de la guerre, donc il y a des Français, des Britanniques qui sont envoyés aussi dans cette région pour contrer la révolution et aider les Russes blancs.
Ah oui, parce qu'après il y a la guerre civile, voilà.
Donc,
qui s'enchaîne.
Oui, le poids n'est pas déterminant, mais il n'empêche que ça ne joue pas un rôle extraordinaire, à mon sens, sur l'issue de la guerre à l'Ouest. Évidemment que les troupes allemandes qui vont être libérées de l'Est, qui arrivent progressivement au cours de l'année 1918, c'est des renforts intéressants pour les Allemands. Mais, à mon avis, on ne peut pas dire qu'ils sont décisifs, en fait.
Merci Michael Bourlet. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un autre front méconnu, celui des Dardanelles. Une bataille navale et un des plus grands désastres de la guerre lorsqu'au printemps 1915, les Français et les Britanniques décident d'envoyer leur flotte pour prendre Constantinople dans l'Empire ottoman.